Et c'est Ilan Malka ce soir pour le journal de la rédaction. Bonsoir Ilan.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. C'est l'une des attaques de djihadistes les plus meurtrières commises contre l'ONU au Mali. 8 casques bleus tchadiens ont été tués aujourd'hui. L'attaque s'est déroulée à l'aube. Les soldats ont pu repousser et neutraliser leurs assaillants, mais ils ont donc éprouvé de nombreuses pertes. Le bilan est encore provisoire. Précision de Marie Matigo dans ce journal. Des incidents ont éclaté cet après-midi à Athènes lors d'une manifestation qui a rassemblé entre 60 000 et 100 000 personnes contre l'accord sur le nouveau nom de la Macédoine que le Parlement grec doit ratifier sous peu. 12 personnes ont été blessées au cours de ce rassemblement, nous entendrons le reportage sur place d'Angélique Kourounis. Le grand débat national voulu par Emmanuel Macron se poursuit demain avec l'ouverture d'une plateforme numérique granddebat.fr. Tous les citoyens sont invités à donner leur avis, laisser leur contribution sur les grands sujets de société. Alors peut-on s'attendre à voir là éclore un nouveau type de consultation démocratique peut-être, ou est-ce un moyen en catastrophe de détourner l'attention? Nous entendrons l'analyse d'Olivier Tesquet, spécialiste des questions numériques et journaliste à Télérama. 8 casques bleus ont donc été tués et plusieurs autres blessés ce matin au Mali. L'attaque s'est produite dans le nord du pays. À l'aube, au prix de nombreuses pertes, les soldats de la paix ont repoussé une attaque lancée par des assaillants arrivés à bord de nombreux véhicules armés. C'est ce qu'a indiqué la mission de l'ONU dans un communiqué. Ce texte parle d'une attaque complexe et lâche qui illustre la détermination des terroristes à semer le chaos et qui exige une réponse robuste, immédiate et concertée de toutes les forces pour anéantir le péril du terrorisme au Sahel. Précision de notre correspondante sur place, Marie Matigo.
C'est une attaque qualifiée de très sérieuse par la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, et c'est une des plus meurtrières qu'elle a subies ces dernières années dans le pays. Cela s'explique notamment par le grand nombre d'assaillants. Tôt ce matin, de nombreux véhicules armés s'en sont pris au camp de la MINUSMA d'Aguelok, un camp régulièrement attaqué par les groupes djihadistes puisqu'il se trouve tout au nord du Mali. Alors c'est une attaque complexe, frontale, un mode opératoire que les groupes djihadistes privilégient de plus en plus contre les casques bleus par rapport aux plus habituelles attaques à la roquette ou aux mines déposées sur les passages des convois. Cette attaque à Aguelok a été vivement condamnée par le représentant de l'ONU au Mali, Mahamat Saleh Anadif, qui a appelé à une réponse immédiate et concertée de toutes les forces. Un appel du pied notamment à la force conjointe du G5 Sahel, qui tarde à être vraiment active sur le terrain. La ministre française des Armées vient d'annoncer la reprise des opérations après plusieurs mois d'arrêt, mais la coordination entre les différentes armées nationales reste difficile et les financements de cette force tardent encore à être débloqués.
Marie Matigo. En RDC, République démocratique du Congo, le président fraîchement proclamé par la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi, a reçu quelques premières félicitations de dirigeants africains. L'Afrique du Sud, notamment, demande à toutes les parties d'accepter la victoire de Tshisekedi. Cependant, l'Union européenne a maintenu ses réserves. Aujourd'hui, des doutes subsistent sur la conformité du résultat. C'est ce qu'a estimé un porte-parole de l'UE. Martin Fayoulou, arrivé second du scrutin du 30 décembre, a appelé aujourd'hui à des manifestations pacifiques. Mais à Kinshasa, c'est plutôt le calme qui régnait cet après-midi. Précision de Nathanaël Charbonnier.
Le calme règne à Kinshasa, mais rien ne semble très clair. Le nouveau pouvoir en place entend donner en tout cas l'image d'un pays où tout va bien. Dans la capitale, ce dimanche a ressemblé aux autres. L'internet fonctionne à nouveau, il était coupé depuis plusieurs jours. Bref, la vie a repris son cours. En revanche, côté politique et diplomatique, la situation est beaucoup moins claire. Si l'Afrique du Sud annonce reconnaître le nouveau président Tshisekedi et demande à toutes les parties d'accepter sa victoire et la décision de la Cour constitutionnelle, l'affaire ne semble pas aussi évidente pour l'Union africaine, présidée actuellement par le président rwandais Paul Kagame. Ce dernier devait se rendre demain à Kinshasa, mais finalement, malaise, il vient d'annuler son voyage. L'Union africaine avait souhaité jeudi la suspension de la proclamation des résultats définitifs, jugeant ceux de la commission électorale entachés de doutes sérieux. Doutes partagés par l'Union européenne qui souhaite attendre avant de se prononcer. Reste que pour l'heure, le nouveau pouvoir fait comme si de rien n'était et envisage toujours une prestation de serment du nouveau président le 22 janvier prochain.
Des dizaines de milliers de Grecs se sont rassemblés aujourd'hui à Athènes. Ils ont protesté contre le nouveau nom de la Macédoine. Alors en cause, il s'agit plus précisément d'un accord signé entre Athènes et Skopje en juin dernier, qui doit encore être ratifié par le Parlement grec. Cet accord vise à mettre fin à un litige de 30 ans entre les deux pays en rebaptisant ce petit pays balkanique République de Macédoine du Nord. Mais pour de nombreux Grecs, l'appellation Macédoine doit appartenir à leur patrimoine, au patrimoine de la Grèce exclusivement. Ils estiment que le gouvernement d'Alexis Tsipras les a là trahis. Au cours de ce défilé, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Les précisions sur place de notre correspondante Angélique Kourounis.
La manifestation n'avait pas encore commencé que les premières bombes lacrymogènes éclataient au pied du Parlement. Les opposants à l'accord de Prespes, qui rebaptise la Macédoine en République de Macédoine du Nord, ne font pas marche arrière, au contraire. Manolis, la quarantaine, s'en étrangle.
C'est très important d'être là. Ils nous volent notre histoire, ils adoptent notre nom, ils ont construit chez eux des statues géantes d'Alexandre le Grand et de nos héros, alors que ces personnages nous appartiennent. Ils présentent l'alphabet slave comme étant macédonien, alors que ce n'est pas comme ça.
Plus loin, Kostadinos explique être là, car il a peur.
Le nom Macédoine appartient à notre pays. Il ne peut pas être donné à un autre État comme si c'était la Corée du Nord et la Corée du Sud. Les gens d'en face finiront par revendiquer nos terres, nos produits macédoniens, tout ce qui comprend le nom Macédoine. Les politiciens n'ont pas le droit de faire ça à leur peuple. Faudrait pas s'étonner si on les trouvait pendus sur la place de la Constitution après ce qu'ils ont fait.
Sur l'estrade, les orateurs, dont un ex-sénateur gréco-américain, de nombreux évêques et des universitaires se succèdent pour expliquer pourquoi cet accord doit être considéré comme une trahison. Des mots très lourds de conséquences qui vont marquer à jamais le pays. Il n'empêche, le gouvernement affiche la certitude qu'en fin de semaine, l'accord sera ratifié par le Parlement.
Angélique Kourounis. Manifestation en France, cette fois-ci plusieurs milliers de personnes dont beaucoup de jeunes ont défilé aujourd'hui à Paris pour la 13e marche pour la vie en opposition à l'avortement. La marche d'aujourd'hui est le premier acte de la mobilisation citoyenne contre la révision de la loi bioéthique, c'est ce qu'affirme Nicolas Sevilla, le délégué général de la marche. Écoutons également l'une de ses porte-paroles, Adélaïde Pouchol.
Je pense qu'on doit avoir une vraie politique par rapport aux femmes en détresse, ça c'est clair. Je trouve que le féminisme n'a pas les bonnes requêtes aujourd'hui. Il y a une détresse, c'est clair, à laquelle on ne sait pas répondre. C'est comme si on manquait d'imagination dans ce pays, quoi. La seule solution quand une femme est en situation de précarité ou qu'elle subit le chantage de son compagnon, c'est l'avortement. Et on se dit, bah non. En fait, en 2019, on est capable d'autre chose. Je pense tout simplement qu'il faut que mon corps, mon choix, ce soit pas juste un slogan, c'est vrai. Et en fait, chacun doit pouvoir le dire. Et l'embryon aussi, il a son propre corps. Et donc, je pense qu'il faut responsabiliser beaucoup plus, surtout les hommes, à mon sens, hein, qui sont très nombreux à dire « bah tu choisis entre l'enfant ou moi ». En fait, c'est terrifiant de voir ce qu'on peut lire sur les forums, hein, de ce que racontent les femmes, les témoignages sont bouleversants. Et je pense qu'il devrait y avoir une forme de « MeToo » des hommes. Et je pense que c'est très important qu'ils se sentent aussi concernés, parce que, en tout cas, moi, dans le monde dans lequel je suis, les bébés, on les fait à deux, quoi. Je pense que ça... C'est peut-être d'abord ça qu'il faut, c'est que la complémentarité entre l'homme et la femme, elle soit réelle et pas seulement théorique.
Des propos recueillis par Manon Clavery. Quelques centaines de femmes gilets jaunes, parfois habillées en Marianne, ont de nouveau manifesté aujourd'hui partout en France pour montrer leur implication dans le mouvement de protestation sociale qui s'exprime depuis 2 mois. Elles ont dénoncé notamment les violences policières. Elles étaient environ 150 dans la capitale, réunies près de la Tour Eiffel, avant donc une marche vers la place de la Bastille. Certaines avaient écrit sur leur gilet « Mamans en colère », d'autres étaient coiffées du bonnet phrygien. Et justement, après ce nouveau samedi de manifestation des Gilets jaunes qui a rassemblé quelques 84 000 personnes dans les rues selon le ministère de l'Intérieur et qui a donc marqué une stabilité dans la mobilisation, c'est à nouveau une semaine de grands débats qui s'ouvre en France. Alors à partir de demain, la nouveauté est que les citoyens français sont invités à formuler leurs doléances sur Internet. Une plateforme granddébat.fr a été mise en place pour tenir des débats en ligne. Et alors pour en parler, nous sommes avec Olivier Tesquet. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes spécialiste des questions numériques, journaliste à Télérama. Ce type de consultation sur Internet, vous diriez que c'est quelque chose de vraiment nouveau en France ?
Alors que ça se fasse dans ce sens-là, c'est relativement rare. C'est-à-dire que on a plus l'habitude de mobilisations citoyennes qui vont rassembler l'avis de tout un tas de personnes, essayer de sonder comme ça un peu la population pour ensuite porter des revendications jusqu'au pouvoir. Par exemple, faut se souvenir quand même que le mouvement des Gilets jaunes a débuté par cette pétition qui avait été lancée par Priscilla Ludowski sur le prix du carburant, qui a été signée par des millions de personnes et qui a était l'un des éléments un peu déclencheurs de la mobilisation. Donc on voit que des prises de participation dans le débat public existent déjà. Ça reste quand même relativement exceptionnel. Il suffit d'ailleurs de voir tout l'espèce de cérémonial qu'il y a autour, que ce soit le gouvernement, les autorités qui demandent aux citoyens de s'exprimer sur un ensemble choisi de sujets.
Alors, l'idée, donc, à partir de demain, c'est de faire participer la population française sur Internet, hein, sur cette plateforme numérique granddébat.fr. Mais est-ce que la population française dans son ensemble est susceptible, comme ça, de donner son avis sur le web? Est-ce que c'est quelque chose qui est rentré dans les usages de manière générale?
Ce qui est rentré relativement dans les usages, c'est le fait de prendre part à ce que les anglo-saxons appellent le slacktivism, qui est, donc, c'est la contraction de slacker, qui veut dire feignant, on va dire, et d'activisme. Donc, c'est un peu l'activisme facile, c'est-à-dire qu'on va signer une pétition en ligne, on va soutenir une cause en changeant sa photo de profil sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, voilà, qui sont des moyens assez peu engageants finalement de prendre part à la délibération politique au sens très large. Après, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer, maintenant que les règles ont quand même été assez fixées, de savoir quelle est la proportion de Français qui vont déjà d'une se rendre dans les mairies pour participer à des débats publics, et puis vont aller sur Internet taper leurs petites recommandations pour verser ça dans cette espèce de gigantesque cahier de doléances. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'en France, comme dans d'autres pays développés, mais c'est particulièrement vrai chez nous, on a cette problématique de l'électronisme, c'est-à-dire que de cette déconnexion de certaines personnes vis-à-vis des outils numériques, parce qu'ils sont dans des zones blanches, parce qu'ils ont des réseaux qui sont pas de bonne qualité. Donc effectivement, on imagine que ces gens-là, pour qui souvent d'ailleurs ça s'accompagne quand même d'une disparition des services publics, des infrastructures en général, de transport, etc., ces gens-là vont pas forcément se sentir très concernés par le grand débat qui pourrait avoir lieu sur Internet. Donc c'est vrai que ça va notamment pas permettre de résoudre cette question-là, qui est une vraie question, de savoir comment on réconcilie le maximum de Français, si possible tous les Français, avec la chose politique.
Olivier Tesquet, est-ce que vous avez le sentiment que ce débat, de la façon dont il est organisé sur Internet, peut donner envie justement à des gilets jaunes de participer ?
Je pense qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont peur que ça finisse par tuer le mouvement, parce que justement ça réinjecte du formalisme. Et si on prend un exemple assez récent, Nuit debout, et puis le mouvement des places, hein, ça pouvait être en Espagne, ou ça pouvait être le mouvement Occupy, et un peu plus longtemps aux États-Unis, c'est des mouvements qui se sont toujours accompagnés de délibérations en ligne assez importantes, mais c'est des mouvements qui justement sont souvent morts de leur formalisme. Enfin, fallait maîtriser tout un tas de paramètres qui permettaient de prendre la parole. Et ensuite, il y avait un vrai problème de hiérarchisation de tous ces avis, de toutes ces idées qui germaient un peu partout. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gilets jaunes aussi, aujourd'hui, qui sont un peu paralysés ou très méfiants vis-à-vis de cette initiative, en se disant qu'on va les déposséder quelque part de cette plateforme de délibération qu'ils ont depuis le début, et qui est Facebook en l'occurrence, quoi. C'est-à-dire que pour eux, le grand débat, ça se passe sur les groupes de gilets jaunes, où chacun vient donner son avis, où c'est parfois un peu cacophonique, mais où en tout cas ils ont l'impression pour le coup de faire vraiment corps. Sauf que sur les groupes Facebook, il y a une modération, évidemment, il y a des administrateurs de page, on les voit d'ailleurs, c'est un peu ceux qui peuvent être les personnalités chez les gilets jaunes, les Éric Drouet, les Maxime Nicole, etc. Là, les règles du jeu, elles sont édictées par le gouvernement, il y a les garants du débat. Donc effectivement, on repasse finalement sur un mode de délibération beaucoup plus classique, même s'il est habillé comme ça, de cette espèce d'aura très moderne. Et le défi, ça va être de réussir à le faire rentrer dans ces règles qui sont beaucoup plus strictes.
Merci à vous, Olivier Tesquet. Demain, les éclaircies devraient revenir sur une grande partie du pays, mais le ciel va rester nuageux, surtout le quart sud-ouest. La Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie seront sous la grisaille. Le ciel sera aussi couvert sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Demain matin, les températures partent de moins 4 degrés en Meurthe et Moselle. Elles montent jusqu'à 8 degrés dans les Pyrénées-Orientales. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau. Elle a été réalisée à la technique par Jean Frédérix.